Merci de nous retrouver pour cette émission consacrée aux droits humains. Et pour animer cette émission, Philippe, Sophie, bonsoir à vous deux et bonsoir à Pierre, à la technique.
Ravi de vous retrouver.
Vous dites pas bonsoir. Tu dis pas bonsoir, Pierre, t'es fâché ?
Bonsoir.
Ok, pardon. Dans cette émission, Sophie, tu nous parleras de la campagne Amnesty Stop Killer Robots. Et puis nous recevrons Agnès. Pardon ? Excusez-moi, une petite visite impromptue. Et nous recevrons Agnès, la présidente de l'ADMD 49, l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonsoir Agnès.
Bonsoir.
Nous passerons ensuite en revue l'actualité nationale et internationale et nous finirons la demi-heure par l'agenda culturel et militant.
Il n'y a pas les micros.
Mais si, il y a les micros. Vas-y Sophie.
Bonjour. Donc nous allons parler d'une campagne qui, d'Amnesty International présentée à travers l'outil numérique Escape the Scan, un aperçu terrifiant des guerres dans le futur et qui a lancé une grande campagne en faveur d'une nouvelle législation internationale visant à interdire les systèmes d'armement autonomes, tels que les capteurs de déplacement et d'autres dispositifs pouvant lancer des attaques contre les cibles sans véritable contrôle humain.
Mais c'est terriblement inquiétant.
Plusieurs pays sont très investis dans le développement de ce type d'armes. Malgré les implications dévastatrices pour les droits humains, en décembre, un groupe d'experts des Nations Unies doit se réunir à ce sujet. Que dit Amnesty sur ce point ? Nous pourrions basculer dans un scénario de cauchemar. Un monde où des drones et d'autres armes avancées peuvent sélectionner et attaquer des cibles sans aucun contrôle humain. Escape the Scan est conçu pour donner une idée de ce que les robots tueurs seraient bientôt capables de faire. Ainsi, permettre à des machines de trancher des questions de vie ou de mort constitue une atteinte à la dignité humaine et risque en outre de causer des violations dévastatrices des lois de la guerre et des droits humains. Cela exacerbera par ailleurs la déshumanisation de la société sur l'espace numérique qui réduit des personnes à des points de données à traiter.
Il y a un mouvement Stop Killer Robots qui a été créé, je crois.
Oui, c'est une coalition mondiale de plus de 180 ONG internationales, régionales, nationales et partenaires universitaires travaillant dans 66 pays afin de garantir que les humains maintiennent un véritable contrôle du recours à la force par le biais d'une nouvelle législation internationale.
Et les Nations Unies, alors, qu'est-ce qu'elles font dans tout cela ?
Cela fait une décennie que l'on parle des armes autonomes aux Nations Unies. Mais ces discussions sont bloquées par les pays qui développent des armes, bien sûr. Et pourtant, le secrétaire général des Nations Unies, le Comité international à la Croix-Rouge, des prix Nobel, des milliers de scientifiques, des spécialistes de la robotique et de professionnels des technologies demandent un traité ayant force de loi afin d'empêcher que ces armes ne deviennent réalité. Les gouvernements doivent fixer des limites face à des machines capables de choisir de tuer. Amnesty International et Stop Killer Robots ont lancé une pétition demandant à tous les gouvernements d'exprimer leur soutien en faveur de négociations.
Merci beaucoup, Sophie. Et vous êtes toujours donc droit devant sur Radio G 101.5 FM. Nous accueillons maintenant Agnès, la présidente de l'ADMD 49, c'est l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci d'être venue, Agnès.
Bonsoir, Agnès.
Bonsoir.
Bonsoir.
Tu peux nous présenter l'association ?
Oui, alors tout d'abord, je ne suis pas présidente, mais déléguée.
Pardon, Agnès.
Parce que l'ADMD fonctionne par délégation.
D'accord.
Donc, l'ADMD, ça veut dire l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Elle est créée depuis 1980 et elle milite pour que chaque Française et chaque Français puisse choisir les conditions de sa propre fin de vie, conformément à ses conceptions personnelles de dignité et de liberté.
Vous avez combien d'adhérents, Agnès ?
Alors, en France, nous avons plus de 75 000 adhérents.
Ah oui.
Et dans le Maine-et-Loire, nous sommes 716 adhérents.
D'accord.
Avec une animation locale, avec une équipe de 10 personnes.
Mmh. D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la situation de la France et dans le monde concernant justement l'approche de fin de vie ?
Alors, Pour l'instant, en France, on a depuis 2016 une loi qui s'appelle la loi Claeys-Leonetti, qui a été votée, et où on permet, on permet aux gens de, aux gens, mais souvent on leur demande même pas s'ils sont d'accord ou pas.
D'accord.
On les met en sédation profonde et continue.
Voilà.
On ne les hydrate plus. On ne les nourrit plus jusqu'à leur mort. Alors, ça peut durer quelques heures, comme ça peut durer huit jours, voire plus, suivant l'état de la personne.
Ouais. Donc, ce que vous dénoncez, c'est l'inhumanité de, du
tout
traitement qui est réservé aux malades profonds.
Oui. Oui, et aussi l'hypocrisie, parce que de toute façon, ils amènent la mort. Ils savent que c'est mourir, mais au lieu de mourir en un quart d'heure, ils vont mettre plusieurs.
Ça prolonge. En
ça
fait.
Prolonge. Mmh. Pourquoi ?
D'accord.
C'est vraiment.
Donc, quelles sont vos demandes ou revendications par rapport à ça ?
Ben, nous, on voudrait absolument qu'il y ait une loi qui légalise l'euthanasie active ou le suicide assisté.
Est-ce que vous pouvez nous faire justement une distinction entre ces termes ? Parce que parfois, il y a un problème sémantique. Euthanasie active, suicide assisté, aide active à mourir. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu
Alors,
une sorte
l'aide
de
active à mourir, ça prend en compte l'euthanasie active, l'euthanasie et le suicide assisté. Donc, l'euthanasie, c'est le médecin qui vous inocule la solution létale et le suicide assisté qui se pratique en Suisse par exemple, c'est la personne elle-même qui doit être capable de bouger alors soit d'appuyer sur une pipette soit de
elle fait l'acte en fait c'est
elle fait l'acte
qui provoque.
Elle-même
tout à fait
d'accord.
Est-ce que en France on est partisan plutôt de l'euthanasie ou d'après les sondages ou les enquêtes
alors
ou...
d'après les sondages on ne sait pas parce que on parle justement dans les sondages on parle d'une aide active à mourir on englobe
d'accord.
les deux nous la DMD on souhaiterait les deux
d'accord
que les deux existent c'est-à-dire l'euthanasie que les médecins peuvent pratiquer et un suicide assisté encadré comme en Suisse dans des maisons
En Suisse d'accord
oui c'est en Suisse et bien sûr c'est encadré pareil comme l'euthanasie on permet pas à des gens qui n'ont aucune maladie de faire un suicide assisté. On leur propose pas.
Ouais. Donc vous, la DMD, qu'est-ce que vous proposez aux gens là au jour d'aujourd'hui ?
À nous, on propose rien.
D'accord.
On propose simplement de parler. Oui, alors il y a les directives anticipées, mais ce qu'on veut, c'est que la loi passe. Donc il y a beaucoup de lobbying auprès des députés. Et bien sûr, merci d'en parler, les directives anticipées.
Oui, est-ce que tu peux préciser ce que c'est ? Donc,
alors,
c'est un document.
Très important,
hein,
c'est un document.
Quelques-uns d'ailleurs à l'avoir rempli. Hein, dans le
c'est
studio.
Un document qui est par contre, lui. Qui a été inscrit dans la loi Leonetti Claeys depuis 2016 et qui est alors c'est un document qui avance on l'écrivait soi-même à la main et maintenant sur le site de la DMD par exemple on en a ou à AMLI on en a la sécurité sociale en a édité aussi où on dit que si on n'est plus conscient, si on est dans un état inconscient, on souhaite ne pas être prolongé.
D'accord. Ouais.
Et on donne des noms de personnes de confiance.
D'accord.
Donc il y a deux ou trois personnes de confiance qui sont nommées sur la feuille et qu'on peut appeler au cas où la personne est dans le coma et où les médecins ne savent pas s'il faut la maintenir, arrêter les soins, etc.
Mais est-ce que les médecins respectent en général ces directives ?
De plus en plus. De plus en plus. Et vous voyez de plus en plus aussi quand vous arrivez dans une clinique, dans un hôpital, on vous donne des directives anticipées.
Oui, c'est vrai. Ouais, je confirme, à Angers, par exemple. Oui, oui, d'accord. Oui.
Ça, tout le monde peut et devrait le remplir, même les jeunes.
Oui.
Parce que mourir,
c'est jamais.
Hein. Vincent Lambert, il avait 20 ans. Hein.
Mm-hmm. Alors, il y a eu une avancée, là, assez récemment, là, lors d'une niche parlementaire.
Voilà,
le 8 avril 2021. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui. Alors, Olivier Falorni a déposé un projet de loi dans sa niche parlementaire.
Oui.
Et donc, dans une niche parlementaire, la loi, elle doit être votée en un jour.
Oui.
Et il y a eu 5 députés sur
qui ont fait des obstructions,
qui ont déposé 3000 amendements.
Oui, c'est ça.
Donc évidemment, la première proposition de loi a été votée.
Oui.
Mais les autres, on n'a pas pu le faire. Quoi.
D'accord.
Voilà. Mm-hmm. Donc ça a été un échec.
Ouais, ouais.
Et depuis, 300 députés ont écrit une lettre au Premier ministre en disant qu'il fallait absolument mettre ce projet de loi sur la table.
Ouais.
Et ils n'ont pas eu réponse à ce jour.
Ouais, d'accord.
C'est quoi ? C'est une peur des futures élections, quoi ? Ils ont peur de perdre des voix ? À quoi c'est lié ?
Est-ce qu'il y a le lobby des associations
Oui, il y a tout ça.
Religieux,
des EHPAD, etc.
Parce que je crois que c'était une promesse avant du président, non
Il en a parlé. Il n'a pas promis comme Hollande.
Il
ne s'est pas engagé.
Alors, moi, je voudrais aussi vous interroger sur, justement, l'état des soins palliatifs en France. Où en est-on exactement ? Est-ce qu'il y a eu des progrès ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire?
Il y a énormément de progrès à faire.
Ah oui, d'accord.
D'abord, très très peu de personnes ont l'accès aux soins palliatifs.
Mm-hmm.
Et je ne sais pas, je n'ai pas relevé exactement, mais dans le Maine-et-Loire, il y a très très peu de lits de soins palliatifs.
D'accord.
Mm-hmm. Donc les gens, ils meurent dans des mouroirs, mais pas en soins palliatifs.
D'accord.
Et c'est ça le drame. Mais ça, il faut des sous pour les soins palliatifs.
Mm-hmm.
Mais nous, on est pour la promotion des soins palliatifs, mais par exemple, en Belgique, l'ADMD et l'euthanasie et les soins palliatifs marchent ensemble.
Oui, c'est ça.
Alors qu'en France, comme les soins palliatifs ont été créés par des cathos, il n'est pas question de parler d'euthanasie. Alors que ça, évidemment, c'est en même temps, c'est
d'accord.
pas du tout.
Attends, tu veux dire que dans les CHU, je sais pas comment on dit, public,
il
n'y a pas de service de soins palliatifs?
Mais il y en a très peu.
Il y a très peu de lits.
Il me semblait que ça pouvait être même une spécialité chez les infirmiers et les infirmières, ce type de soins, non ?
Oui, tout à fait.
Il y a des formations.
Ils ont été, ces soins palliatifs ont été créés il y a assez longtemps, je ne sais pas la date, mais il y a assez longtemps, par des médecins catholiques.
D'accord.
Et donc, ça a toujours cette empreinte catholique qui est là et qui plane sur...
Et on a enregistré quand même des progrès notables aussi dans d'autres pays cette année.
Alors cette année on a eu vraiment
en Espagne, au Portugal notamment.
Oui, en Angleterre. Alors il y a l'Espagne et le Portugal qui sont passés à alors Belgique, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg depuis très longtemps. En dehors de l'Europe, il y a le Canada et une grande partie des États-Unis et de l'Australie. Et l'Angleterre, l'Écosse, l'Autriche et l'Allemagne et l'Italie sont en cours de procédure.
D'accord. Donc la France est un peu à la traîne, quoi.
Oui. Mais pas un seul de ces pays n'a pris la voie de la sédation comme en France, par hasard. Ils ont pris euthanasie active.
Okay. D'accord.
Très bien. Donc il y a quand même des grandes avancées. Est-ce que tu peux nous
dire
un petit peu plus
Sauf en France,
comment on peut vous contacter, comment on peut aller vers
Alors,
vous
en vous fait. Avez un site qui est très très bien qui, sur admd.net.
D'accord.
Et ensuite, bon, moi je suis joignable, donc Agnès Bourdin, au 06 88 23 40 39 ou admd49@admd.net.
D'accord.
Voilà. Merci beaucoup Agnès.
Merci Agnès d'être venue nous voir.
On se retrouve après une pause musicale.
Harry, Harry, Harry me. Harry,
Harry my way.
Harry,
Harry my way.
Harry,
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 Harry, Harry, Harry, Harry. Running to bench, Jehovah walked on water, grandma raised the silver bench. Mama working next, Papa he don't even make the effort, except for when he walked the wing and left. Now I'm toiling with my head off, I can stand on my own two now, but he said I carry make my leg hurt, I hope my dragon ain't too. Try to move but I cannot, crossbow session, knees and elbow, head granny feet. Walking his hair was just so you know, just so you know. His wings are blowing for me, bro. I don't think about it, I just hope they walk. My faith will carry me this side, oh. My faith will carry me this side, oh, oh, oh. Chasing a witch slip, my mind now, innit? Same shit, just a dead shit, my mind now, innit? At least I kept my mind on my vision. Now, I see me how they did it. Either use the downs as my pivot, or drown with it. And so I turned all my demons to a sound, spitting image of my mouth, spitting image of my fear. Calling through the prayer, it's so quiet when I hear. I tell you when you're down, man, don't nobody care. Watch him jump ship when you're finally up in the anchor. His wings are growing for me, no. I don't think about it, I just hope they walk. My faith will carry me this I know. My faith will carry me this I know.
D'entendre Carry Me du groupe Everything is Recorded. Et il est 19h et presque 20 minutes et c'est le temps des actualités. Philippe, c'est la fin de la COP26. Alors on est content ou on est déçu?
On peut parler d'un rendez-vous manqué pour cette conférence mondiale tant attendue sur le climat. Certes, elle a réussi à arracher les avancées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et pour s'attaquer aux énergies fossiles. Mais la solidarité des pays développés à l'égard des plus vulnérables, qui ne sont pas responsables de cela, mais se trouvent souvent en première ligne, n'a pas été à la hauteur du défi. On se dirige donc toujours vers 2,7 degrés de réchauffement à la fin du siècle. Le renoncement sur le charbon montre qu'il sera difficile de sortir à temps de cette énergie la plus polluante. Malgré la mise à disposition de 8,5 milliards de dollars, l'Afrique du Sud, ainsi que l'Inde et la Chine, se sont exprimés à la dernière minute contre la mention explicite d'une sortie du charbon dans le pacte climatique. Les pays du Sud ont rappelé qu'ils étaient aussi en droit de profiter des énergies fossiles pour se développer.
Bien sûr. Oui. Alors, on va maintenant au Qatar, le fameux Mondial 2022. Alors, Cécile Coudriou, la présidente d'Amnesty France, a dit « Le Mondial 2022, c'est un petit peu de sport, énormément d'argent et des violations massives des droits humains. » C'est bien dit, non?
Ah oui.
Ce pays a en effet laissé mourir des milliers d'ouvriers sur ses chantiers destinés à la Coupe du Monde de foot sans enquêter sur ses accidents de travail, ni bien sûr reconnaître sa responsabilité. La pétromonarchie continue encore aujourd'hui de maintenir des employés, hommes ou femmes, dans des conditions de quasi-servitude. Devant la pression de la communauté internationale, elle a récemment accepté de modifier sa législation. La loi sur la kafala, système de mise sous tutelle préalable à l'embauche, a enfin été modifiée. Une évolution purement cosmétique. Car dans les faits, à un an de l'événement sportif, et contrairement aux affirmations des autorités qataries, rien ou presque n'a changé sous le soleil de plomb de Doha.
Oh, c'est bien dit ça. Allez, maintenant on va en France où une commission d'enquête parlementaire vient de présenter un rapport sur l'immigration.
Celui-ci sort le 2 décembre et porte sur la gestion globale de l'immigration en France. La restriction de l'octroi des visas, la gestion policière de l'immigration, le durcissement de l'accès des étrangers aux soins. À l'issue de 6 mois d'audition et de travail de terrain porté par la députée Sonia Crimi, la commission a formulé 30 recommandations pour trouver des solutions pragmatiques et humaines à l'immigration. Par exemple, supprimer le délai de carence de 3 mois pour bénéficier immédiatement de la protection universelle maladie et mettre fin au démantèlement quasi quotidien de campements. La commission appelle aussi à ne pas pénaliser les populations par une réduction drastique de la délivrance des visas. Ce rapport, qui a, avouons-le, peu de chances d'être repris à 5 mois de la présidentielle, propose une réforme du pilotage de la question migratoire qui doit sortir, selon elle, du giron du ministère de l'Intérieur pour dépasser la seule gestion policière de l'immigration. Elle propose ainsi la création d'un haut commissariat à l'immigration auprès du Premier ministre.
Bah justement, aujourd'hui, une grosse pensée pour ce drame terrible survenu mercredi, où 27 migrants, hommes, femmes, enfants, sont morts noyés en voulant traverser la Manche sur une embarcation pneumatique. Il est temps, vraiment temps, de faire quelque chose.
C'est une honte pour la France et l'Angleterre au-delà des passeurs.
Oui, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, à Calais, l'État et les associations s'opposent actuellement sur la question du démantèlement systématique des camps de migrants.
Oui, les 2 militants associatifs qui observaient une grève de la faim depuis le 11 octobre en soutien aux migrants ont annoncé mercredi 17 novembre la fin de leur action. Nous sommes fatigués et en colère. Nous ne sommes pas écoutés. Le dialogue est fermé, ont-ils déclaré. Ils avaient entamé leur jeûne pour dénoncer le traitement inhumain infligé aux migrants et réclamer un moratoire sur les démantèlements de camps. Le gouvernement avait rapidement dépêché un médiateur sur place, le directeur de l'OFI. Pour tenter d'apaiser la situation, il a annoncé l'ouverture d'un centre d'accueil temporaire. Les exilés sont désormais conduits vers de nouvelles places d'hébergement, 150 dans le Pas-de-Calais et 150 en dehors. Mais pas question pour les autorités de suspendre les démantèlements et leur lot de souffrances, ni de reconnaître que les migrants subissent un harcèlement quasi quotidien et des traitements dégradants.
Et toujours en France, le milieu culturel se mobilise, Philippe, pour sauver les artistes afghans.
Après la prise de Kaboul le 15 août, des artistes, des journalistes, des avocats, des chercheurs, des magistrats, des défenseurs des droits humains ont travaillé sans relâche, souvent avec peu d'effectifs et de moyens, pour identifier et établir des listes des personnes en danger qui les contactaient désespérées. Ces listes ont été remises au gouvernement français pour demander une évacuation, le soutien et l'aide de la France. Or, 3 mois après le discours du président, seule une poignée de citoyens afghans a été évacuée par la France. Un nombre dérisoire malgré les engagements pris. Aujourd'hui, parmi ceux et celles qui lancent un appel pressant, certains sont activement recherchés, leurs noms inscrits sur des listes noires. D'autres sont victimes d'agressions et d'exactions quotidiennes. Tous et toutes sont des cibles, pris au piège des talibans, les femmes étant doublement visées. Que fait la France pour leur venir en aide? À quand l'arrêt du double langage?
Et pour finir ces actualités, nous vous annonçons que cette année encore, Amnesty lance l'opération 10 jours pour signer son but, mobiliser pour la défense des droits humains, les droits de 10 personnes autour du 10 décembre, journée internationale des droits humains. Alors, il y a 5 femmes à défendre. Wendy Galarza, une militante féministe au Mexique. Le Mexique, le pays où les femmes sont souvent attaquées et tuées parce qu'elles sont des femmes.
À ce propos, saluons les grands rassemblements qui ont eu lieu samedi dernier partout dans le monde pour dénoncer les violences faites aux femmes.
Jana Jihad, jeune femme de 15 ans, défenseure des droits humains et journaliste en Cisjordanie. Elle est régulièrement harcelée et a reçu des menaces de mort en raison de son travail.
Siham Ali Harmet, arrêtée à la frontière entre l'Érythrée et le Soudan, alors qu'elle tentait, à l'âge de 15 ans, de fuir son pays. Personne n'a eu de contact avec elle depuis 2012.
En Chine, Zhang Zan, la journaliste citoyenne déterminée à faire connaître la vérité sur la Covid-19, arrêtée. Elle a été condamnée à 4 ans d'emprisonnement dans le but de la réduire au silence.
Et aussi, Panusaya Krung, l'une des voix principales du mouvement pro-démocratie en Thaïlande. 25 chefs d'inculpation pèsent sur Krung. Elle encourt la perpétuité.
En plus de ces 5 femmes, nous voulons également défendre Imoleayo Michael, jeune Nigérian inculpé pour avoir manifesté. Mikita Zalaratou, biélorusse, arrêté à l'âge de 16 ans pour des faits non prouvés. Mohamed El Bakker, avocat spécialisé dans la défense des droits humains en Égypte, emprisonné depuis plus de 2 ans. Et Bernardo Cal Sol, défendeur des droits du peuple autochtone Maya Okechi, au Guatemala, condamné sans preuve à 7 ans de prison.
Et enfin, le 10e cas, c'est celui de Sphère, l'une des plus anciennes ONG de défense des droits des femmes et des personnes LGBTI en Ukraine. Sphère est régulièrement la cible d'attaques violentes, mais aucune mesure n'est mise en place pour les protéger. Alors on vous attend nombreux, nombreuses pour signer les pétitions à notre stand qui sera installé, comme d'habitude, à l'entrée de la médiathèque Toussaint, entre le mardi 7 et le samedi 11 décembre. Déjà 19h28 et nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM et je crois que c'est l'heure de notre agenda militant et culturel. Attention, il est bien chargé.
Soirée rencontre aux 400 coups ce soir à 20h pour le film Jusqu'à la garde. À travers cette fiction, c'est bien le sujet de la violence faite aux femmes qui est traité. Le débat se fera en présence d'une avocate et d'une juriste. C'est organisé par le Planning Familial.
La Ligue des droits de l'homme organise une conférence le 26 novembre à 20h sur les inégalités terreau de l'extrême droite à l'espace Frédéric Mistral, donc à la Roseraie, avec David Kella, docteur en économie à l'Université d'Angers, membre des économistes atterrés.
À l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, la manifestation angevine aura lieu le 27 novembre, c'est-à-dire samedi prochain, à 16h au Jardin du Mail.
Oui, il faut être nombreux et nombreuses. Oui. Le jeudi 2 décembre, l'association Femmes d'ici et d'ailleurs appelle à un rassemblement place Lorraine à 18h pour soutenir les femmes afghanes.
L'association France-Palestine Solidarité organise au 400 coups une soirée rencontre le jeudi 9 décembre à 20h avec le film Gaza, mon amour, réalisé par les frères Nasser.
Le vendredi 10 décembre, au prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne, une lecture spectacle, on n'a rien vu venir, une production ceci et cela sur le thème de la vieillesse.
Et puis n'oubliez pas l'association Toit du Monde qui organise l'expo-vente comme chaque année le 10, 11, 12 décembre pour les produits tibétain. Il est presque 19h30.
Et népalais.
Et népalais. Ah, merci voilà, de l'avoir spécifié.
Voilà.
Il est presque 19h30. Il est le temps de conclure cette émission et de remercier Agnès pour sa venue.
Merci Agnès.
Allez, excellente soirée. N'oubliez pas de venir signer nos pétitions à la médiathèque.
Bonsoir et à bientôt.
Au revoir.